Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Elle lui dit, je vais à la salle de bain.
Elle sort de la chambre.
Ses esprits lui reviennent. Il décide d'aller prendre la clé en vitesse et sort de la chambre. Prendre le sac qui est dans la commode, sortir la clé qui est dedans,
retourner à la chambre, ouf, elle revient. Il va à la salle de bain à son tour.
Une demi-heure plus tard, il l'a quittée et retrouvé sa sœur chez ses parents au salon. Il s'est assis à côté d'elle. Il lui dit, voilà, c'est fait. Elle lui demande, que faisons-nous? Demain, il faut entrer chez elle. Si on l'attend trop, elle risquerait de changer la serrure. Le lendemain, une fois qu'elle l'a vu s'éloigner, ils descendent la dune et avec la clé, entrent dans la maison silencieuse.
Dans la chambre. Là, Elle est émue de voir le lit. Elle se dit que c'est là qu'ils ont fait la chose. Il s'approche de la vitrine.
L'ouvre. Il lui dit, viens. Elle s'approche. Il lui demande, je prends quoi? Elle regarde, elles sont magnifiques, prends ce que tu veux. Il prend quelques montres qu'il met dans sa poche. Il a chaud. Elle est fascinée par ce qu'ils sont en train de faire et s'imagine qu'ils mènent une vie aventureuse. Tout à coup, ils ont entendu la porte de la maison qui s'est ouverte. Vite, ils ferment la vitrine. Ils ne bougent pas, paralysés. Ils entendent qu'elle enlève son chapeau, ses gants et met son sac dans la commode.
Et qu'elle se dirige en direction du salon. Qu'elle ait fermé la porte du salon, vite, il prend sa soeur par le bras, sort de la chambre, longe le couloir, met les clés sur la commode et sort de la maison.
Il court, court, court. Sans regarder en arrière. Ils trouvent dans le hall d'entrée leur mère. Qui leur dit, allez vite, vous changez, il est l'heure de dîner.
Ils vont chacun dans leur chambre. Charles-André entre dans sa chambre, change sa veste, sort les montres, qu'il met dans sa table de nuit, met une autre veste, et sort de la chambre.
Durant tout le repas, lui et sa soeur sont inquiets. Pour la soirée, ils se sont assis l'un à côté de l'autre, au salon. Elle demande tout bas, qu'allons-nous faire des montres? Je ne sais pas. » Elle lui dit, « Il faut les cacher hors la maison, car on ne sait jamais si la police vient. Tu as raison, demain matin, j'irai les cacher. » Le lendemain matin, il creuse un trou au pied d'un arbre au-dessus d'une falaise, loin des regards indiscrets. Il a mis les montres dans une boîte à gâteaux en métal, puis est allé retrouver sa sœur. Voilà. Tu n'as plus rien à craindre. Jules et Jim ont fini leur palissade et commencent à prendre à la cuisine des boîtes de conserve. Cette guerre, qui semble pour eux la fin et le début d'une nouvelle vie, les excite. Ils parlent sans arrêt de ce qu'ils feront et ne feront plus, assis en tailleur devant la cabane. Jules dit, plus l'école, les vacances toujours. Gilles lui dit, pour aller où nous voudrons. Oui, où nous voudrons. Gilles lui dit, ce qu'il faut maintenant, c'est creuser un puits. Car avec la guerre, l'on risque de manquer d'eau. Jules lui dit, nous allons creuser des tas de trous pour chercher de l'eau. Il doit y avoir des sources qui doivent se jeter à la mer. Jules répond, pour trouver de l'eau, j'ai vu dans un almanach qu'il fallait une branche d'arbre et lorsqu'elle bouge, c'est qu'il y a de l'eau. Jules lui demande, pourquoi elle bouge? Parce qu'elle est attirée par l'eau. Il décide de chercher une source souterraine. Gilles a pris une branche d'arbre qu'il tient des deux mains comme il l'a vu sur l'almanach. Jules a une pelle. Ils font le tour de la cabane. Lorsqu'ils croient que la branche bouge, ils creusent. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Puis, ils vont un peu plus loin. Et un après-midi, tiens, la terre est fraîche ici. C'est au pied d'un arbre. Il creuse. Et... oh ! Une boîte ! Jules s'arrête de creuser et se penche pour la prendre. Il ouvre et voit des montres. Gilles lui dit, c'est un trésor, prenons-le. Menons-le à la cabane, il est à nous. Gilles lui demande, à qui peut-il appartenir ? Une tête des pirates. Ils ont dû l'enterrer ici. Ils amènent le trésor à la cabane et décident de l'enterrer dans le sol de la cabane. Gilles dit, comme ça personne ne pourra nous le prendre. Ce sera notre trésor de guerre. un après-midi, on a sonné à la villa des Beaumandins. Un domestique va ouvrir. Ce sont deux gendarmes, un petit et un grand à moustache. Désirions voir monsieur de Beaumandin. C'est pourquoi, monsieur ? Des questions à lui poser. Entrez, messieurs.
Et il les mène au salon. Entrez. Ils entrent. Puis le domestique va au bureau de son maître. Entrez. Monsieur, le gendarme désire vous parler.
Ils sont où ?
Au salon, monsieur.
Bien,
j'y vais. Il se lève pour sortir du bureau et aller au salon. Il pense que c'est à cause de la guerre qu'on le veut réquisitionner la maison, quelque chose comme ça. Il entre au salon et trouve les deux gendarmes debout au milieu de la pièce.
Il se dit, on va me demander quelque chose. C'est normal, je suis un notable. C'est la guerre. Messieurs, vous désirez me parler, me voir ?
Oui, monsieur, dit un des gendarmes.
Je vous écoute.
Voilà, monsieur, c'est assez délicat. Enfin, madame Voilin, qui habite la maison sur la plage un peu plus loin, a porté plainte. On lui a volé des montres d'un très grand prix. Ce sont des objets de collection qui appartenaient à son mari. Et cette dame pense que c'est un de vos enfants qui aurait fait le larcin. Surpris, en colère, Constantin dit
« Elle est folle, cette femme. C'est ridicule, cette histoire. » Oser calomnier un membre de ma famille, je vais lui faire un procès. Et comment ? C'est elle que c'est un des membres de ma famille.
Elle le sait, parce que la seule personne qui a été capable de lui voler la clé de la maison...
Comment ?
Il paraît qu'avant le vol, votre fils était chez elle. Le père est surpris et hausse ses épaules.
Chez elle ? Et que faisait-il chez elle ?
Le gendarme tout saute. Cette dame adore inviter chez elle des jeunes gens prendre le chocolat. Tout Biarritz le sait et nous fermons les yeux, car ce sont surtout les fils de bonne famille. Et puis, il faut bien que jeunesse s'instruise. Et il vaut mieux que ce soit avec une dame respectable.
Constantin est ahuri et dit « Mon aîné n'a que 15 ans, votre dame doit se tromper. »
Le gendarme lui dit « Vaudrait mieux, c'est interroger votre fils. » Le père surpris dit
« Bien, soit. » Constantin appuie sur la sonnette murale pour faire venir un domestique. L'on frappe à la porte. Entrez.
C'est la bonne.
Dites à Charon d'entrer, de venir ici.
Elle ressort. Constantin dit au gendarme,
cette histoire est absurde. Mon fils n'a que 15 ans.
On frappe à la porte.
Entrez.
Est entré Charles André. Lorsqu'il voit les gendarmes, il rougit. Son père lui dit
« Approche ».
Il s'avance vers lui.
Son père lui demande « Est-ce que tu te connais une dénommée Madame Voilin ?»
Charles-André comprend.
« Réponds. »
« Je l'ai rencontrée une ou deux fois. »
« Et tu es allé chez elle ?»
« C'est-à-dire que... oui. »«
Et pourquoi ?»
« Elle m'a offert un chocolat. »«
Et c'est tout ?»«
Oui. »«
Tu en es bien sûr ?»«
Oui. » Le gendarme intervient et dit
« Monsieur, vous permettez, il s'agit surtout du vol. »
Le père soupire et dit
« Nous reparlerons de tout ça plus tard. » Mais je n'ai pas fini avec toi. Cette dame dit que tu aurais pris des montres.
Le gendarme intervient.
Que vous seriez entré chez elle lorsqu'elle était absente et que vous l'auriez pris des montres. Est-ce vrai, jeune homme ?
Charles-André baisse la tête. Son père lui crie.
Est-ce vrai ?
Il ne répond pas. Son père lui donne une gifle.
Alors, c'est vrai, dis donc, petit saligo.
Il le secoue, en le prenant par la chemise.
Dis-moi, où sont les montres ?
Charles-André tremble de tout son corps et dit
« Je les ai enterrées à côté d'un arbre. »
Le père crie
« Où ? »
« Là-bas, vers la falaise. »
Le gendarme s'approche et lui dit
« Tu vas nous montrer où tu les as enterrés. »
Le père le prend par le bras et le pousse.
Ils sortent du salon. Et là, dans le hall,
ils trouvent la mère qui demande
« Que se passe-t-il »
Constantin lui répond
« Il y a que ton fils est un débauché et un voleur. »
« Oh, mon Dieu !»
Il pousse son fils en avant. Une fois dehors, le gendarme demande à Charles-André.
C'est loin ?
Non, monsieur.
Alors, allons-y.
Ils y vont. En passant devant la maison des gardiens, ils prennent une pelle. Une fois arrivés sur les lieux, le père demande.
Où c'est ?
Là.
Alors creuse.
Il prend la pelle et creuse.
Creuse, creuse.
Il ne trouve rien.
Creuse, creuse.
Un peu plus loin. Un peu de partout. Le gendarme lui demande.
Tu es sûr que c'est ici ?
Oui, monsieur.
Alors, où ?
Je ne trouve plus.
Elles ont été déposées. Comment ces montres ?
Dans une boîte en fer de gâteau. Le gendarme prend la pelle et creuse d'autres trous. L'autre le relie. Ils font ça pendant plus d'une heure. Puis, épuisés, ils abandonnent. Constantin furieux demande.
Alors, où sont ces montres ? Tu ne les rends pas, tu iras en prison.
Charles-André pleure. Le père énervé lui crie.
Arrête de pleurer comme un bébé. Lorsqu'on fait des bêtises, on doit assumer comme un homme. Tu es sûr que ces montres étaient ici ?
Oui. Le père regarde les gendarmes et leur dit
« Qu'est-ce qu'on fait ?»
Un des gendarmes dit « Nous allons aller chez la dame en question. » Charles-André crie
« Non, surtout pas. Je ne veux pas. »
Son père lui dit
« Tu as honte. Eh bien, tu vas y aller. Et tu vas... Tu n'as pas fini avec moi. Car il faudra bien... que tu nous expliques pourquoi tu as volé cette personne. »
Ils vont tous sonner à la maison de Madame Voilin. Une bonne leur a ouvert.
« Monsieur !»
Le gendarme s'approche et lui dit
« Nous aimerions parler à votre maîtresse. »«
Entrez, messieurs !»
Et elle les mène au salon. Entrez, messieurs. Et les laisse.
Charles-André a les yeux baissés. La porte s'est ouverte, c'est la femme en robe blanche, rayonnante, vieille mais royale.
Elle s'approche d'eux.
Elle regarde Charles-André et dit « Je vois que vous avez retrouvé mon voleur. »
Le gendarme s'approche d'elle
et la salue. « Oui, madame. » Et il a avoué.
« Bien. Et mes montres ?»«
Malheureusement, madame, ce jeune homme nous a dit qu'il les avait enterrées, mais il ne les retrouve plus. »«
C'est regrettable, cela. Et vous avez cherché de partout ?»«
Oui, madame. »
Elle s'avance vers Charles-André
et lui demande
« Tu es sûr d'avoir de la vérité de ce que tu avais fait des montres ?»
Il fait huile la tête, mais n'ose pas la regarder. Elle soupire. Elle lui demande
« Pourquoi tu fais cela ?»
Il ne répond pas.
Son père s'approche de lui
et lui crie « Réponds !»
Parce que j'avais besoin d'argent à cause de la guerre. Je voulais partir si les Prussiens venaient jusqu'ici.
Le père est aux épaules et dit « Il doit avoir l'esprit un peu dérangé. » Le
gendarme demande « Que faisons-nous ? Portons plainte, madame ?»
Le père s'avance
et dit « Nous allons arranger ça à l'amiable. Je vais vous faire un chèque, madame, et nous n'en parlerons plus. » Elle lui dit
« C'est-à-dire, monsieur ?»
Il lui dit « Madame, faisons cela à l'amiable, sans procès verbal, et n'en parlons plus. »
« Mais monsieur ?»«
Madame, je vous en prie, je pourrais tout aussi bien vous demander des comptes. »«
Comment, monsieur ?»«
Que faisait mon fils chez vous ?»« Mais ne répondez pas, nous savons tous ce que font les jeunes gens, et nous ne sommes pas là pour ça. »« Alors, un chèque ?»«
Bien, monsieur. »
Il sort son chéquier et un stylo, écrit sur le bord de la table, et le lui tend.
« Cela vous convient-il ? » ?»«
Oui, monsieur, je vous remercie. »
Le gendarme demande « L'incident est clos, alors ?» La dame lui dit
« Oui. » »«
Alors je vous laisse. Au revoir. » »«
Merci, messieurs. »
Et le gendarme les quitte. Constantin prend son fils par l'épaule et dit « Nous partons, nous aussi. » Et il la quitte. Sur le chemin qui le ramène chez eux, le père et le fils ne se parlent pas. Le père tient le fils fermement à l'épaule et il marche d'un bon pas. Arrivé à la maison, le père mène son fils à son bureau. Il prend sur la table de son bureau une règle et va vers son fils qui est resté au milieu de la pièce.
Quitte ton pantalon et ton caleçon.
Charles-André s'exécute.
Frappe les fesses avec la règle. Cela fait horriblement mal, mais il ne bronche pas. Le père frappe, 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 frappe. Les fesses rougissent.
Puis, au bout d'un quart d'heure, il s'est arrêté. « Rhabille-toi !»
Charles-André se rhabille.
J'ai été obligé de donner une grosse somme à cette femme. Et pour ceci, par ta faute, alors que ce devait être elle qui aurait dû me demander pardon pour le dévergondage qu'elle t'avait fait. Je ne veux pas d'une personne dépravée chez moi. Dès que je le pourrai, tu iras en pension. Maintenant, va dans ta chambre.
Charles-André sort du bureau.
Constantin remet la règle sur le bureau. Et sort de la pièce.
Il va au salon expliquer la chose à sa femme.
Charles-André est dans sa chambre, allongé sur son lit. Il ne pense à rien. Il sait qu'il est coupable. Les fesses lui font mal. Il s'est mis sur le ventre. Il n'a pas envie de pleurer. Il sait qu'il a mérité la correction et il est suffisamment lucide pour comprendre que la punition aurait pu être plus grave. La police aurait pu l'emmener, on aurait pu le juger et le mener au bagne. Il sait qu'il y a des enfants au bagne. Ce qui l'ennuie le plus, c'est la pension, mais peut-être qu'il y échappera à cause de la guerre. L'on a frappé à la porte.
Qui est-ce ? C'est moi, Apolline. Qui est-ce ? C'est moi, Apolline.
C'est étrange, dans son drame, il n'a pas pensé une seule fois à elle. Peut-être qu'il pensait que cette affaire ne le concernait que lui seul.
Entre.
Elle est entrée et s'approche de lui.
Tu as mal? J'ai entendu les coups. Un peu, oui.
Tu leur as donné les montres?
Non, elles n'étaient plus là. Elles n'étaient plus où je les avais mises.
Elle lui dit. Quelqu'un a dû les prendre.
Qu'ont fait les gendarmes?
Rien, puisque mon père a fait un chèque, la vieille a retiré sa plainte.
Tout est fini alors?
Pas tout à fait. L'on veut m'envoyer en pension.
Oh non, il lui dit. Ne t'en fais pas, nous sommes en guerre et beaucoup de choses peuvent changer.
Elle s'allonge près de lui.
Et lui caresse ses cheveux en lui disant
« Si tu vas en pension, je veux y aller moi aussi. »
Il lui dit « Ça ne servira à rien, puisque nous serons séparés malgré tout. »
« Je le sais, mais je ferai la même peine que toi. Je suis aussi coupable que toi. »
Puis, ils se taisent un long moment. Ils n'ont plus rien à dire. Il n'y a qu'à attendre. Dès que Jules a entendu que son frère est accusé du vol des montres qu'il a trouvées, il a tout de suite retourné à la cabane prendre les montres pour qu'on ne les trouve pas dans leurs affaires. Il a pris les montres et couru vers la plage pour les jeter à la mer. Malheureusement, juste où il arrive sur la plage, viennent vers lui deux gendarmes. Il n'a pas le temps de se sauver que les gendarmes sont sur lui. Un des gendarmes demande « Que fais-tu là, petit, tout seul ?»«
Rien, je me promène, monsieur. »
Le gendarme lui dit « Fais attention, car nous allons annoncer des gitans par ici. C'est pour cela que nous sommes là. »
Jules, au moment où il doit se retirer, tombe de sa poche une montre.
Le gendarme la regarde et la prend.
Belle montre, elle est à toi ?
Jules ne sait que répondre.
Fais-moi voir tes poches.
Le gendarme lui fouille les poches et trouve d'autres montres.
Où as-tu pris tout ça ?
Jules ne sait que répondre. Il a peur.
Comment tu t'appelles ?
Jules Beaumandin.
Ah, toi aussi ? Viens avec moi.
Et les gendarmes le mènent chez ses parents.
Le père furieux reçoit tout le monde dans son bureau. Il demande à Jules.
Où as-tu trouvé ces montres ?
Elles étaient dans un coffre, dans la terre.
Qui te les a données ?
Personne. J'ai trouvé seul, par hasard.
Le père dit au gendarme.
Nous avons retrouvé les montres. Il ne nous reste plus qu'à les rendre à Madame Follandin. Et elle me rendra mon chèque.
Une fois que les montres ont été restituées et le chèque déchiré, l'affaire a été close. Mais le père a demandé à Jules.
As-tu d'autres trésors ?
Non, je vous le promets, je vous le jure.
Dans la soirée au salon, il demande à sa femme
« Que fait Jules durant la journée ?»«
Il joue avec le fils du jardinier Gilles. Je crois qu'il s'amuse sur la plage à faire des cabanes. »«
Tu sais où ?»«
Non, sûrement dans un endroit tranquille. Jules est sage et semble jouer simplement. »«
Je me méfie. Tu as vu ce qu'a fait son frère ?»
Elle lui dit
« Moi, je me méfierais plutôt d'Apolline. » Elle a changé ces derniers temps.
C'est devenu une petite femme maintenant.
Et la vie reprend, sauf pour Charles-André qui reste dans sa chambre. Souvent dans la journée, sa sœur va le voir. Elle essaye de le distraire en lui proposant des jeux de société. Elle lui dit
« Ne t'en fais pas, tout le pays ne pense qu'à la guerre. Père est inquiet pour ses affaires et mère a peur qu'il ne parte. Ton histoire a été effacée par la grande. »
Il lui dit, De toute façon, ils veulent me mettre en pension. J'ai décidé, c'est de me sauver et de t'emmener avec moi. Elle sourit et lui dit, ce serait sûrement très drôle, mais en même temps dangereux. Pendant ce temps, Jules et Gilles passent leur journée à jouer près de la cabane. Un jour que Jules est seul et dort dans la cabane, enroulé dans une couverture.
Mais qu'est-ce que cela ?
Cette voix l'a réveillé d'un coup. Il voit penser sur lui son père.
Où as-tu trouvé tout ce bric-à-brac ?
Ce sont des choses qui ne servent plus.
Le père regarde autour de lui et crie.
Je ne veux plus que mon fils fasse la dinette.
Et d'un geste brusque, il a arraché le tapis. Donne des coups de pied aux affaires.
Demain matin, je te garde à la maison pour faire des exercices scolaires.
Mais père, je n'ai rien fait.
Je ne veux pas que mon fils devienne une mauviette et que tu passes ton temps avec le fils du gardien. Viens.
Il s'avance vers son fils, qui s'est redressé.
Non.
Et Jules sort de la cabane en courant. Il court sur la plage et voit venir à lui Gilles.
Gilles lui demande, que se passe-t-il ? Mon père est venu à la cabane. Il ne veut plus qu'on se voie.
Gilles le prend à la nuque et lui donne un baiser sur la joue. Puis, il le fait asseoir sur le sable. Lui s'assoit à côté de lui et lui dit
« Ne te fais pas de soucis, va. Ton père va se calmer. »
Jules trouve Gilles très gentil. Et maintenant que son père veut les séparer, il se met à l'aimer. Et son corps se serre de le perdre. Gilles lui dit il a dû partir. Je l'ai retourné à la cabane, tout rangé. Ils se lèvent tous deux et vont vers leur cabane. Jules lui dit, si père veut nous séparer, nous partirons ensemble. Ils retrouvent la cabane, tout est démoli. Devant ce désordre, ils ont les larmes aux yeux. Gilles dit,
il ne reste plus qu'à recommencer.
Je lui dis, cela ne servirait à rien. Il recommencera. Il reste un moment devant la maison et décide de rentrer chez eux. Avant de se séparer dans le parc, je lui dis,
s'ils cherchent à nous séparer, nous partirons ensemble pour l'Espagne. Nous vivrons tous les deux, loin d'eux, bien loin d'eux.
Une fois rentrée, la bonne lui dit que son père veut le voir à son bureau. Il y va.
Ferme la porte et viens t'asseoir.
Écoute-moi bien. Tu es un homme maintenant. Je ne veux plus que tu t'amuses comme un bébé. Et qu'il faut que tu sortes de tes rêves. Tu dois te comporter comme un homme. Je ne veux plus non plus que tu aies des rapports avec ce dénommé Jules. C'est un gentil garçon, mais il n'est pas d'un autre monde.
Père, Gilles est mon ami.
Eh bien, tu en trouveras un autre.
Non, personne ne le remplacera.
Ne me réponds pas et arrête de faire l'enfant. Tu n'as plus à l'âge des amitiés futiles et des jeux puérils. Tu dois penser à des choses sérieuses, à ton avenir. Il y a un temps pour tout. Le temps des rêves et des amitiés juvéniles sont passés pour toi. Je t'interdis de revoir ce fils de gardien, de jardinier.
Non, père, je ne veux pas.
Son père le gifle.
Tu devrais avoir honte de faire des caprices. Le jour où la France a eu deux grandes défaites, à Franchevilliers et à Forbach. La nation est en deuil et tu pleures parce qu'on t'interdit de jouer. Va dans ta chambre et prie pour la France.
Avant de quitter le bureau, Jules dit à son père
« Père, je comprends votre colère et la tristesse que vous avez. Je vous promets d'être plus sage. Mais laissez-moi vous revoir, Gilles. »
« Non. Il est temps que tu sortes de tes rêves. Je ne veux plus de tes jeux d'enfant ni de tes amitiés qui t'isolent du monde. Tu dois voir la vie et vivre avec les hommes et non rêver. » Gilles n'est pas une amitié pour toi. Va dans ta chambre. Je parlerai au père de Gilles pour que vous ne voyez plus.
Non, père, je vous en supplie.
Cela suffit. Va dans ta chambre.
En se rendant dans sa chambre, il se dit que non, il ne veut pas perdre Gilles. Il entre dans sa chambre et s'assoit sur une chaise.
C'est difficile de laisser ses rêves. Il veut revoir Gilles et peut-être partir avec lui. Oui, il le verra, il lui en parlera. Oui. Durant le repas, le père dit
« J'ai décidé une chose. Nous allons rentrer. Ici, vous êtes trop libre et vous faites des bêtises. Demain matin, nous faisons les bagages. »
Personne ne dit mot. La nuit, chacun est agité. Le père inquiet de savoir comment vont se comporter les Lyonnais face aux événements. La mère pense aux bagages qu'il y aura à faire. Charles-André à la pension, Apolline à son frère et Jules à Gilles. Le lendemain, chacun se réveille de mauvaise humeur. Jules, après son déjeuner, prie, décide d'aller voir Gilles en cachette de son père. Il va vers la maison du jardinier, retrouve le jardinier Martin devant sa maison à arroser ses fleurs. Il le voit.
Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?
Je voudrais parler à Gilles.
Mais Gilles dort encore, il est tôt.
Je sais, mais nous partons aujourd'hui.
J'ai appris. Et tu es venu lui dire au revoir ?
Oui, monsieur.
Bien, venez.
Et il va le faire entrer dans sa maison.
Il monte à l'étage par un petit escalier de bois. Le père frappe à une petite porte et entre. Jules attend.
Jules entend.
Monsieur Jules est là. Tu veux le revoir ?
Oui, bien sûr.
Le père ouvre la porte.
Vous pouvez rentrer, monsieur.
Jules entre. Le père sort et ferme la porte. Jules voit que Gilles est encore au lit. La pièce n'est pas très grande. Il y a un grand lit, une armoire et une chaise.
Une table de nuit. Ça sent le bois usé, ciré. Les parois sont tapissées avec du papier à fleurs beige et des roses rouges. Les volets sont ouverts. Il y fait jour. Gilles s'étire et lui dit « Viens ». Gilles s'approche. Gilles lui dit « Vous partez ?»«
Oui, c'est sûrement à cause de ton frère. »
Gilles lui dit « Père a détruit la maison. »
Nous en ferons une autre.
Je suis triste que tu partes.
Moi aussi. Je n'ai pas envie de retourner à Lyon. J'aimerais que l'on puisse partir ensemble.
Pour aller où ?
Je ne sais pas, en Espagne.
Gilles est plus réaliste que son ami. Il sait que ce ne sont que des rêves. Il lui dit,
pour passer la frontière, ce ne serait pas facile. Nous ne sommes que des enfants.
Gilles est triste de ce que vient de lui dire Gilles. Mais il ne se laisse pas démoraliser.
Eh bien, nous resterons en France, cachés dans les bois.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la quatrième partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, cinéma, vidéo, radio production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.